Chapitre 53. Il ne pouvait pas simplement l'aborder comme ça, dans la rue. Mark Tate se serait enfui, aurait crié, réfuté sa véritable identité, interpellé les passants. Il aurait fait une scène et, dès qu'il se serait débarrassé de Gray, aurait disparu une fois de plus. Et cette fois, Gray ne l'aurait pas retrouvé. Il élabora donc un plan. Il avait raconté au proviseur que son grand-père, en réalité décédé depuis longtemps, était mourant et avait demandé un congé de quelques jours pour raisons familiales. Pendant ce temps, il pourrait tout préparer. Il avait dit à sa mère qu'il partait en formation, et il avait commencé à le suivre. Mark Tate était un homme réglé comme du papier à musique. Il portait le même costume bleu marine tous les jours, mangeait le même pain au chocolat, buvait le même café qu'il achetait dans la même boutique, entrait dans les bureaux de son entreprise avec le même air suffisant et adressait à la jolie secrétaire de l'accueil le même bonjour mielleux. Et pourtant, Gray se souvenait que Mark voulait devenir millionnaire à l'époque. Qu'était-il donc arrivé à ce grandiose projet? Le mardi, après s'être assuré que Mark Tate était bien arrivé au travail, Gray rentra chez lui et prépara un grand sac avec les objets dont il aurait besoin. Des cordes, de la nourriture non périssable, une couverture, des couteaux, son appareil photo, un rouleau de papier toilette, une ceinture, une tête d'oreiller, un oreiller gonflable, un sac de couchage, son chargeur de téléphone, une lampe torche. Puis, il ouvrit trois paquets de nourriture pour chat, versa des tonnes de croquettes dans la gamelle de Brenda, attrapa son sac et prit le train, de Croydon à la gare Victoria, de Victoria à Oxted. Il emprunta le chemin bien connu qui menait jusqu'à l'appartement de Mark. Mais avant d'y arriver, il s'arrêta pour agrandir la déchirure qu'il avait remarquée la veille dans la bâche derrière le panneau du chantier. Il avait fait des recherches et, comme il s'y attendait, puisqu'il n'avait jamais vu d'ouvrier, il avait découvert que le promoteur était à court d'argent et que la construction avait été interrompue jusqu'à trouver un nouvel investisseur. Le chantier était inactif depuis au moins un an, selon les articles qu'il avait pu lire en ligne. Complètement abandonné. Il s'introduisit une nouvelle fois à l'intérieur, longea le dos du premier bâtiment, le seul qui avait été équipé. Il y avait une fosse derrière, probablement pour local à poubelle et, au fond, Gray avait remarqué une petite porte qui menait au sous-sol du bâtiment. Elle n'était pas fermée à clé. Il sauta dans la fosse après s'être assis au bord et baissa la tête pour passer la porte. Comme la veille, il traversa le sous-sol en béton ciré, poussa les lourdes portes coupe-feu et monta l'escalier qui menait au hall. Il avait repéré plusieurs caméras de surveillance, mais après une année d'abandon, il aurait été étonné que quelqu'un prenne encore la peine de les regarder. Il prit tout de même soin de garder son visage baissé et de raser les murs. Puis, il emprunta un autre escalier jusqu'au premier étage et poussa la porte de l'appartement de gauche. Voilà. Il l'emmènerait ici. Personne ne le verrait ni ne l'entendrait, et Gray pourrait le questionner aussi longtemps qu'il le voudrait. C'était une sorte de loft complètement ouvert, avec des murs en briques apparentes ça et là, ainsi qu'une cuisine blanche et brillante construite autour d'un îlot central en bois. Il prépara la pièce rapidement. Le système électrique ne fonctionnait pas, sauf la lampe de la hotte, qui devait être reliée à un réseau indépendant, comme la petite bande de lumière vert pâle qui courait sous les placards. Il n'y avait pas d'eau. Gray sortit le pack de bouteilles qu'il avait acheté à l'épicerie près de la gare. Il disposa les cordes à côté de l'élégant radiateur auquel il avait prévu d'attacher Mark, gonfla son oreiller et posa son sac de couchage sur le sol. Il sortit la nourriture. Il avait prévu assez de petits gâteaux et de chips pour tenir une semaine. Il rangea le rouleau de papier toilette dans la salle de bain et garda les couteaux, la tête d'oreiller et la lampe torche dans son sac. Puis, il revint sur ses pas jusqu'à la rue et trouva un café où, pendant 4 heures, il rédigea ce rapport qu'il aurait dû transmettre à son supérieur depuis bien longtemps, en attendant que Mark Tate rentre du travail. Si quelqu'un avait un jour dit à Gray qu'il se cacherait dans la pénombre d'un chantier abandonné, avec un couteau dans une main et une tête d'oreiller dans l'autre, comptant les secondes dans sa tête pendant qu'un tsunami d'adrénaline déferlait dans ses veines, qu'il enlèverait quelqu'un en le menaçant d'une arme et le séquestrant, Gray l'aurait pris pour un fou. Et pourtant, il était là, tenant dans sa main moite un couteau de cuisine affûté, écoutant le bruit des pas de l'homme qui avait tué son père et probablement sa sœur, se rapprocher. C'était bien lui qui avait surgi de l'ombre et enroulé son bras autour du cou de Mark en murmurant. « Bouge pas. Crie pas. J'ai un couteau. » Il le fit basculer en arrière et passer dans l'ouverture derrière le panneau, ses pieds traînant sur le ciment, ses mains essayant de desserrer le bras de Gray autour de son cou. « Ne te débat pas. Reste calme. J'ai un couteau. Je te tue si tu bouges. » Mark Tate obéit. Gray lui enfila la tête d'oreiller sur la tête et le fit descendre dans la fosse, traverser le sous-sol, monter les escaliers. Puis, il le guida jusqu'à l'appartement numéro 1. Il le fit tomber à terre et l'attacha rapidement au radiateur avec les cordes. Sans un mot.
« J'ai rien sur moi, » gémit Mark à travers le coton de la tête d'oreiller. « Juste un billet de 10 et un téléphone pourri. Mais j'ai de l'argent à la maison. Je peux aller le chercher pour vous. »
« Mark. » Une syllabe. Pas plus. Il le vit se raidir immédiatement. « Mark Tate, » reprit Gray avec entrain, comme s'il venait de tomber sur un vieux copain qu'il n'avait pas vu depuis des années dans un pub. Il s'approcha de Mark et retira la tête d'oreiller. Un vrai moment de bonheur. Il aurait dû le filmer. Cette expression d'horreur et d'incompréhension qui s'était figée sur son visage parfait. Son tressaillement, et encore mieux, la façon dont il essayait en vain de recoiffer ses cheveux en désordre d'un mouvement de la tête.
Bordel de...
Disparu dans la mer du Nord par une sauvage nuit d'été, en compagnie de ma sœur. Ça fait un sacré bail. Gray était dans un état second, comme s'il avait bu deux shots à jeun.
« Comment tu te portes ? » continua-t-il. « Tu en as une jolie petite vie. » « Femme de rêve, boulot de rêve, tu m'impressionnes. Tu as des enfants ?»
Mark fit non de la tête, visiblement sous le choc.
« C'est probablement une bonne chose, vu que t'es un psychopathe. »
Mark déglutit difficilement et son bronzage d'hiver tourna au gris morne en quelques secondes.
« Tu veux quelque chose peut-être ? De l'eau ? Une barre au chocolat ? Des chips ? Maintenant que j'y pense, j'aurais dû acheter des bières. » Cela dit, comme tu vas rester attaché à ce radiateur un petit bout de temps, c'est peut-être mieux de ménager ta vessie.
De la fenêtre leur parvenait le bruit des bâches en plastique claquant au vent et la rumeur des voitures qui défilaient sur le périphérique de Londres à l'heure de pointe. Gray entendait également la respiration saccadée de Mark et le téléphone qui vibrait avec insistance dans une poche de son costume. Il s'assit en face de lui.
« Qu'est-ce qu'elle va faire, ta femme-enfant ? »
lui demanda-t-il quand le téléphone s'arrêta.
« Quand elle aura compris que tu ne rentreras pas du travail. »« Elle va s'inquiéter, » répondit Mark avec urgence. « Elle vient d'arriver ici, elle ne connaît personne. Elle aura peur. Est-ce que je peux lui envoyer un message pour lui dire que je vais rentrer tard ?»«
Hors de question. Par contre, tu vas m'expliquer ce bordel. Tu es mort noyé. »«
Apparemment pas. »
Le téléphone recommença à vibrer. Gray poussa un lourd soupir.
« Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Allez, pense à ta pauvre petite femme qui se demande où tu es. Parle !»
Mark essaya de reprendre contenance, de se redresser, mais ses liens l'en empêchaient, et il balança une nouvelle fois sa tête vers l'arrière dans un effort désespéré pour dégager les cheveux de ses yeux.
« J'ai nagé pendant un mile, et je suis sortie de l'eau. J'ai trouvé une cabine téléphonique, j'ai appelé ma tante. Elle est venue me chercher et m'a ramenée à Harrogate. J'ai failli mourir. » J'avais perdu beaucoup de sang. J'étais en hypothermie. Tout était flou. J'ai perdu connaissance pendant plusieurs jours.
Gray donna un coup de poing dans le sol.
« J'en ai rien à foutre de ce que t'as fait. Qu'est-ce qui est arrivé à Kirsty ? Si tu t'en es sorti, elle est où ?»
Mark eut l'air surpris qu'il lui pose cette question.
« Elle a disparu. Je la tenais, je la ramenais vers le rivage. Elle était avec moi et puis tout à coup, elle a disparu. » « Comment ça ?»
Gray pensa à la scène de Titanic dans laquelle Kate Winslet laisse Leonardo DiCaprio s'enfoncer dans les eaux glacées. S'imagina les lèvres bleues de Kirsty. La mer se refermait sur son visage et un dégoût violent l'envahit quand il se rendit compte que la dernière chose qu'elle avait vue, c'était le visage dur et froid de Mark Tate.
« Je ne sais pas. Je n'étais qu'à moitié conscient, j'étais gelé. Je la tenais dans mes bras et tout à coup, je la tenais plus. Elle avait disparu et je n'avais plus assez d'énergie pour la chercher. Je me suis laissé flotter jusqu'au rivage.
Gray se redressa.
« Tu t'es laissé flotter ?»« Oui, je crois. Je sais plus vraiment, j'avais perdu beaucoup de sang. Tout se mélange. »
« Si tu as flotté jusqu'au rivage, pourquoi pas elle ?»«
Je ne sais pas, ok ?»
répondit-il d'une voix que Gray reconnut tout de suite. Ce ton métallique et froid, ce gouffre noir, c'était la voix de l'homme qu'il avait vu frapper un mur quand Kirsty avait refusé de l'embrasser, de celui qui avait essayé de forcer l'entrée de Rabbit Cottage pour l'atteindre quand elle ne voulait pas le voir, de celui qui avait tenu un couteau contre sa gorge et qui avait plongé avec elle dans la mer du Nord. C'était la voix de l'homme qui avait volé sa vie. Le téléphone de Mark recommença à vibrer. Gray se retint de l'extraire de sa poche et de l'écraser.
« Tu l'as cherché? Quand ta tante est venue te sauver, tu l'as cherché ?»
Mark secoua la tête misérablement.
« Je t'ai dit que j'étais à moitié mort. Je me suis réveillé 3 jours plus tard, et tout le monde pensait que je n'avais pas survécu. Je ne pouvais pas revenir. Je ne pouvais aller nulle part. »
Gray se prit la tête dans les mains avec rage.
« Putain, mais elle est peut-être là-bas! Elle est peut-être là-bas sur les rochers! Pendant toutes ces années, on aurait pu aller la chercher pour l'enterrer! Mais merde! Est-ce que tu te rends compte de ce que t'as fait de ma vie? Ça a été un enfer à cause de toi! À cause de ce que t'as fait à ma famille! À ma mère! À moi! On était une famille parfaite, vraiment! La meilleure famille du monde! Ordinaire, banlieusarde, banale et prévisible! Avec des meubles bas de gamme, des repas bas de gamme et une voiture bas de gamme. Ma sœur était innocente, et mes parents. On ne parlait pas vraiment de sujets profonds à table parce qu'on s'en foutait. Après tout, on n'était pas important et c'était parfait. Rien de ce qu'on faisait ne changeait quoi que ce soit à rien. Si tu nous avais tous tués, ça n'aurait rien changé pour personne. C'était parfait. Mais tu as ruiné nos vies. Ma vie.
Il s'arrêta pour contenir son émotion.
Et toi, ta famille, ta mère? Pourquoi est-ce que Kitty aurait dit à ta mère que tu étais mort?
Parce que... soupira Mark. Ma mère me détestait. Mon père aussi. Mais avec Kitty, on avait un lien particulier depuis que j'étais petit. Elle a tout de suite su, sans que je lui dise, que ce qui s'était passé, c'était ma faute. Elle a voulu me protéger, comme d'habitude. Elle a entendu dire que tu avais perdu la mémoire, que la police pensait que c'était un accident, qu'ils avaient abandonné les recherches pour les corps. Alors elle m'a caché pendant 2 ans. Et durant tout ce temps, on a attendu qu'ils viennent me chercher, que tu te souviennes. Mais ça n'est jamais arrivé. Alors, petit à petit, j'ai recommencé ma vie. J'ai déménagé en Cornouailles, aussi loin d'Harrogate que je pouvais aller sans utiliser mon passeport. Dans un petit studio, à enchaîner les petits boulots. J'ai réussi à économiser assez d'argent pour m'acheter une nouvelle identité. J'ai trouvé un travail. J'ai monté les échelons, et puis...
Il s'arrêta et jeta un regard vers son appartement.
J'ai rencontré une femme que j'ai épousée. C'était dur de passer toute cette partie de ma vie sans famille, sans amis, tout seul. Mais enfin, maintenant, j'ai quelque chose. J'ai quelqu'un juste pour moi.
Son téléphone vibra à nouveau comme pour ponctuer sa réplique. Il baissa les yeux vers la poche où il se trouvait, attendit qu'il s'arrête et releva la tête.
Et je l'aime plus que tout au monde.
Gray le fixa un instant avant d'exploser de rire. Mark frissonna.
« Vraiment? Tu crois que je vais avoir pitié de toi? T'es fou ou quoi? Ah, j'oubliais. Mais oui, t'es fou. »
Mark contracta la mâchoire et essaya encore d'enlever ses cheveux de son visage.
« Et dis-moi, quand est-ce que tu as miraculeusement retrouvé la mémoire?
Quand je t'ai vu la semaine dernière.
Tu m'as vu?
Oui, en ville. » Près de la gare, Victoria. Tu allais au bureau. Et tout m'est revenu. Tout.
Et c'est quoi, alors, ce tout?
Le visage de Gray perdait ses couleurs au fur et à mesure qu'il se remémorait le fil de cette soirée.
Je n'ai rien oublié, dit-il d'une voix tremblante. Je sais que tu nous as rejoints dans le jardin pendant qu'on regardait le pan. Il dansait pour nous. Je me souviens de cette pièce où tu nous as enfermés, que tu la touchais. Que tu allais la violer. Puis tu nous as poursuivis sur les rochers. Tu as plongé avec elle. Mon père, mort sur la plage. Tout. Tout ce que j'avais enfoui pendant 20 ans. Tout ce qui m'a empêché d'avoir une vie normale. Maintenant je sais, je me souviens, et tu vas payer pour tout ce que tu as fait. Je vais appeler la police, ils vont t'arrêter et tu passeras le reste de ta vie à pourrir en prison. » Mark explosa d'un rire guttural.
« Tu y crois vraiment ? Qu'ils vont se fier au souvenir d'un type qui avait pris de la drogue le soir en question ? Qui a prétendu à l'époque avoir tout oublié ? Qui a miraculeusement retrouvé la mémoire 20 ans plus tard ? Qui est capable d'enlever quelqu'un en le menaçant d'un couteau et de le séquestrer en dégradant une propriété privée par-dessus le marché ? D'un homme qui, soyons honnêtes, a l'air complètement barge ? Mais tu as fait croire à tout le monde que tu étais mort ! Tu as un faux passeport !
C'est toi qui le dis.
Quoi ? Si tu appelles la police, je leur dirai que je ressemble probablement à un homme qui est mort il y a longtemps, loin d'ici, que tu m'as attaqué et que tu es très dangereux. Je dirai que je n'ai rien à voir avec ce Mark Tate. Mais ils vérifieront ton identité. Ils sauront que Carl Monrose n'existe pas.
J'ai payé très cher pour ce passeport, réfuta-t-il en secouant la tête.
Très, très cher. La police n'y verra que du feu, comme tout le monde. C'est des conneries.
Mark hausse les épaules.
Je paie mes impôts. Je vote. Je voyage à l'étranger. Je suis Carl Monrose. Mais vas-y, appelle-les. Vois ce qu'ils te diront. Appelle.
Gray regarda Mark, puis son téléphone. Il venait de comprendre que son plan n'était pas infaillible, ce qui lui donna la nausée.
Qu'est-ce que tu attends ?
Le téléphone était devenu moite dans la main de Gray. Il se retourna et commença à trembler. Il n'arrivait pas à réfléchir.
« Tu devrais me détacher, me laisser partir. Je continuerai ma vie et toi la tienne, non ?»
Gray fit volte-face.
« Non ! Je n'ai aucune vie à continuer, tu comprends ? Je n'ai aucune putain de vie parce que tu me l'as volée !»
Mark soupira. Son téléphone vibrait à nouveau.
« Allez, elle se fait un sang d'encre. Elle ne va pas tarder à appeler la police. » Ils retrouveront facilement la trace de mon téléphone. Ils trouveront un homme innocent attaché à un radiateur et un fou furieux avec un couteau. Si tu me laisses partir, je leur dirai que mon train a été retardé. »
Gray ferma les yeux pour penser à sa mère. Seule, brisée, complètement dépendante de lui, sans même l'apparence d'une vie normale depuis des années. Il pensa aux choses qui le rendaient humain. Son travail, ses élèves, son chat. Son équipe de football en salle. Il imagina l'humiliation d'être embarqué dans une voiture de police, placé dans une salle éclairée au néon, essayant d'expliquer la situation à deux inspecteurs impassibles le regardant les bras croisés, comme s'il était fou. Peut-être qu'il était fou, après tout. Comment avait-il pu se dire que c'était une bonne idée ? Suivre cet homme dans Londres, le forcer à venir ici, l'attacher ? Ça ne pouvait pas bien se finir. Le téléphone de Mark vibra à nouveau et ce bruit ramena Gray brutalement à la réalité. Il attendit qu'il s'arrête et se retourna vers Mark, qui lui souriait d'un air satisfait, comme un vendeur de voiture qui viendrait de se débarrasser d'un véhicule invendable.
« Allez, Graham, détache-moi. »
La fureur s'empara de Gray. Sa vision se troubla, son corps tremblait. Il plongea sur Mark, les bras tendus.